Au programme de ce soir, comme d'habitude, on a un talk, quoi, une grande discussion, une présentation de quelque chose. Ce soir, c'est de Rush. Suivi de Rush, on fait ce qu'on appelle les lightning talks ou les discussions éclairs. C'est une discussion qui dure 5 minutes, pas une de plus, sur n'importe quel sujet qui touche à Drupal ou pas, du moment que ça reste dans le web. Vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel du sujet, mais juste, vous pouvez avoir juste une question et on peut essayer de répondre pour vous. On finira par un petit coup à voir. Juste avant de commencer, au moment de commencer la présentation de Rush, Yann va nous faire une présentation du dégât et on commence par un tout petit tour de salle comme on a l'habitude de faire. Le principe est simple, nom, prénom, pseudonyme si vous en avez un, la société et ce que vous faites, et deux tags. Pour vous identifier, donc, je commence, c'est Julien Dubreuil, société IDEA, je suis développeur Drupal. Et en deux tags, je dirais cuisine et photographie. Voilà. Donc on commence par le fond.
T'as oublié le pseudo.
Ouais, mon nom de pseudo c'est Julien, mais chaque fois j'ai oublié un truc. À vous l'honneur.
À moi. Fabrice Robini, société Octo. Deux tags, donc toujours newbie sur Drupal et puis agilité dans les projets. Voilà.
Bonjour, donc Julien Rollin, société Cogedis, il n'y a pas très longtemps encore, mais. Expert PHP plutôt Zen Symfony et Drupal avec la version 7. Voilà.
Donc Philippe Gervaise, je suis designer, thémeur Drupal et freelance. Voilà. Deux tags, thème et photo.
Ici de moi, pseudo Y Dachel, je suis un freelance, développeur Drupal, mainteneur de CCK et lead dev sur Field API en Drupal 7. Tag Field et.
Lisa Diaz et toujours touriste.
Le tag
toujours touriste.
Guanajele, la société Sigma, donc sur Nantes. Et j'ai le niveau de Drupal, le B aussi. Après mon détail, j'ai le B et puis après. PHP en général, pas de particularité.
Vincent Clarivé, pseudo JD, et de tag, je dirais, risque aussi, en fait,
Ok.
Voilà, je suis Maximilien Stant, alias Rézière. Je travaille pour la succession Saint-Exupéry, je suis drupaliste. J'ai vendu depuis 3 semaines. Je suis un peu gentil. Et puis en termes de tag, je dirais photo et montage du jeu.
Allez-y, Allez-y, Vario, affaires étrangères. Débutons de tag depuis 2 ans. Et le tag, pas que ce que tu veux.
Donc Farid HH, RFI, je suis assistant d'édition. Donc je rentre les choses dans Drupal et en tag je dirais Espagne et soirée.
Donc Rodolphe Hiver, je m'occupe principalement de la supervision des projets et sécurité, mais je m'intéresse à Drupal depuis quelques semaines en fait. Et je crée des sites internet en PHP pour savoir si ça va plus vite avec Drupal.
C'est oui, on va passer à la question.
Jean Thibault, pseudo Jean Thibault. Je suis en train de créer un cabinet de conseil en système d'information pour les collectivités locales et je développe avec Drupal le site de présentation de mon activité. Deux tags, bloc du Morbihan et Trail. Hey.
Hey.
Moi, c'est Sébastien Lucas, je suis web designer, enfin, disons que j'ai plusieurs spécialités, mais j'utilise Drupal dans ce cadre-là. Ça fait 2 ans que je l'étudie. Et donc, mon pseudo, c'est S. Lucas, et sinon, les tags architecture et photographie, parce que c'est mes autres spécialités.
Bonsoir à tous, alors moi je m'appelle Jérôme Krieg, donc mon pseudo c'est Miaou la frite. Voilà, je suis sur Drupal depuis 1 an à peu près en freelance. Et en 2 tags je dirais CCK et Views. Voilà.
Bonsoir, Samuel Hurel, Tarentru, développeur Drupal depuis 6 mois chez LDA. En 2 tags je dirais jonglage et OpenGL.
Donc Nicolas, je suis développeur de poche chez Thomas Guy. 2 tags, démo,
détail. Vincent Renoubi, Endline, je suis responsable technique et 2 tags c'est Drupal 7, quand.
Khalid Jebari, a.k.a. Jebs, développeur chez Streamify, en matière freelance aussi. Et en 2 tags, je dirais Features et Views.
Javier Pizzoso, mon pseudo c'est Lou, travaille pour Streamify aussi, dans 2 tags, photo architecture.
Léon Cross, donc je suis développeur formateur Drupal, mon pseudo c'est Chip Drupal, et 2 tags c'est Lyon Cassoulet.
Moi c'est Julien Dubois, société Commerce Guide, pseudo Artus Amac. En 2 tags, j'ai envie de dire où est Nilester, et voilà, et du Drupal Camp, il faut qu'on en organise un bientôt.
Ah, on aura ce que je pense.
Guillaume Babel, pseudo Y Babel, formateur chez IDEA, et en 2 tags, Montaigne et Economy.
Et un dernier arrivant. Le principe c'est simple, c'est nom, prénom, société, ce que vous faites dedans. Et 2 tags pour vous qualifier.
Michael Lévy, la société s'appelle Emergie. Et en 2 mots, éditeur de presse et. Presse et. Web.
Peut-être une petite présentation de IDEA.
Ouais, bon, ça va être rapide. Donc IDEA, c'est ici. On est à peu près une petite trentaine de personnes. On fait du Drupal depuis quasiment 4 ans maintenant. On est une petite dizaine. Il y a 8 qui en font quotidiennement, soit en mission, soit au portée. Il y en a d'autres qui gravitent un peu autour. Voilà, donc on fait conseil, formation, expertise et on recrute. Si jamais il y a des questions, venez me voir à la fin.
Et s'il y en a qui sont intéressés,
je vais nous accueillir. On va nous accueillir pour passer sur les agents quoi.
Excuse-moi,
ça casse tout aussi. Voilà, bah c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose à faire de plus.
Ils sont là habituellement, j'ai oublié quelque chose. Ou...
Merci.
Moi aussi je suis IDEA. C'est moi qui présente aujourd'hui dans ma société.
D'accord. Qu'est-ce que vous faites en formation?
Drupal.
Que Drupal.
Ouais. D'accord. J'en ai fait d'autres avant, mais en ce moment c'est que Drupal. Donc les gens qui accueillent, c'est Charles-Henri qui est là, et Samuel aussi qui est là, et puis il y en a d'autres qui sont là.
Oui, beaucoup. Allons-y pour Roche.
Allez.
C'est une longue présentation. Je vous préviens tout de suite. J'ai essayé de faire ça court, mais de pouvoir m'en laisser sur le côté, sur le carreau. Il y a 50 slides quand même à voir. Je pense qu'on a bien pour 35 minutes. Accrochez-vous à votre siège. Parce que ça va être un peu long.
Il sera en ligne.
Les slides, bien sûr. Alors, à la découverte de Drush, Drush c'est pour moi le vrai couteau suisse du Drupal. Aujourd'hui je ferai plus en vivant. Je pense que ceux qui y ont goûté me feront plus en vivant. Ce soir, une petite introduction sur Drush. Et comment ça fonctionne, comment ça s'installe, brièvement, et plus particulièrement, comment on crée des alias de sites, des commandes Drush spécifiques, et qu'est-ce que Drush make. Parmi vous, qui n'a jamais installé Drush? Et qui l'utilise tous les jours? Les bases de Drush. Drush, ça vient de Drupal et Shell, et c'est pas un module, même si on le trouve sur les pages de modules de Drupal, donc si vous allez sur /project/drush, vous pourrez télécharger, c'est peut-être l'un des seuls qui ne s'installe pas dans le répertoire de Drupal. Drush, c'est un regroupement de scripts, ces scripts vont vous permettre de faire des actions sur Drupal. C'est compatible avec les versions 5, 6 et 7. Seulement, dans son évolution, Drush, il existe des commandes qui ne fonctionnent pas avec toutes les versions de Drupal. Notamment, je crois que c'est la dernière, sur la version 7, c'est site install, qui ne marche pas en Drupal 6 et avant. Et avant Drupal 5.2, quelque chose comme ça, Drush ne fonctionne pas, mais je pense que personne n'a encore de Drupal 5. C'est compatible sur Linux, Mac et Windows, juste sous Windows, est-ce qu'il y en a qui jouent avec sur Windows? Moi, la dernière fois que je l'ai installé, c'était il y a plus d'un an, et j'avais pas été à la fin du process, donc je ne sais pas si aujourd'hui ça s'améliorerait.
Ouais, il suffit de le mettre dans les systèmes, dans les variables système, et puis c'est bon.
Ouais, je pense que c'est peut-être soit un manque de doc, soit un manque de compréhension. Ouais, je pense.
Non, c'est pas vrai, c'était super dur d'annoncer Windows.
Ah, merci!
C'est scandaleux de prendre des choses pareilles.
Pourquoi faire Drush? On peut faire plein de choses, notamment télécharger des modules, les activer. On peut aussi télécharger tout ce qui est thème, installer, désinstaller des modules. Vous pouvez installer depuis des dépôts Git CVS. On peut mettre à jour Drupal, on peut avoir des informations sur son Drupal, sur ses Drupal. Si vous êtes développeur et que vous jouez avec Drupal, vous avez dû pester plus d'une fois sur le cache de Drupal et devoir aller dans l'administration, vider le cache, et ça vous a pris un temps fou. Ben, en une simple commande Drush, vous pouvez effacer tout le cache de Drupal. Drush, c'est un script, donc vous pouvez l'insérer dans le cron. Pour faire tourner les tâches quotidiennes. Vous pouvez aussi exécuter du PHP ou du SQL, il faut juste faire attention, si dans votre commande il y a une double cote, votre commande Drush va s'échapper en fait. Vous n'aurez pas le résultat attendu. Pourquoi utiliser Drush? Je pense que la raison principale c'est de gagner du temps. Imaginez télécharger un simple module et l'activer. Je me rends sur la page Drupal, de mon projet, je le télécharge, je le dézip, je le mets dans mes modules, je vais sur mon administration de module, je clique sur mon module et je l'active, ça me fait 7-8 étapes. Avec Drush, c'est 2 étapes, la commande pour le télécharger, la commande pour l'activer. Donc en gain de temps, je pense que c'est assez impressionnant. Maintenant, imaginez quand vous démarrez un projet, vous avez 15 modules à télécharger. Bah, vous allez peut-être avoir, quand vous donnez 10 modules, bah, vous allez avoir 70 actions à faire, alors qu'en Drush, vous allez toujours avoir 2 commandes. Pourquoi utiliser Drush aussi pour simplifier certaines tâches, notamment l'automatisation de certaines choses, des tâches un peu chiantes, un peu galères à faire, rien que de devoir aller dans l'administration des menus, rien que vider les caches, pour moi c'est chiant, depuis l'interface de Drupal, et ben, une simple commande Drush. C'est vite fait. Je vous le disais, c'est scriptable. Donc, si vous avez besoin de faire des batchs d'export, d'import, des choses comme ça, vous pouvez faire avec Drush. Là-bas. Ou pas.
Il y a
les aléas du direct. Nicolas, il m'a mis. Ah, la bonne vieille méthode du clic.
Ah, les nerfs, en plus, pas télécommande.
Ça, mais proche ou pas?
Proche clic, tout à fait. Les prérequis, bien évidemment, un accès en ligne de commande à votre serveur, puisque tout se passe via la ligne de commande. En local, généralement, ça ne pose pas trop de problème. Sur les hébergements mutualisés, c'est quasi impossible. Un minimum de PHP 5.2. Et vous allez devoir modifier PHP CLI. PHP CLI, c'est ce qui vous permet d'exécuter du PHP en ligne de commande. Donc voici les recommandations à apporter au fichier PHP qu'on a mis.
Sur
les
hébergements mutualisés, on a accès
aux commandes. Il y a des choses qui sont mieux. Le téléchargement de paquets, ça ne se fait pas. C'est rare d'avoir vraiment toutes les clés de
l'accès à ça.
Non, mais je pense qu'il est mort. Dommage. Il n'a jamais servi. C'était sa première ce soir. Il est lâche. Voilà. Merci, Manu. Télécharger de Rush, je vous le disais, c'est simple, sur /project/rush, actuellement on a la version 30.3, celle qui nous a résolu pas mal de soucis. Moi, la seule petite bémol que j'ai avec Rush, je vous le dis maintenant, parce qu'après j'en fais plus que de l'éloge, c'est que les commandes, au fil des versions, ont changé, les alias, les noms des commandes, avant on mettait les pads underscore, on mettait les espaces, et c'est vrai que c'est un peu chiant à suivre à force, les commandes changent un peu. Ouais, mais c'est chiant d'avoir des messages de vous. Merci. Installer Rush, je pense qu'il y a plein de sujets qui traitent sur le web. Mais je ne vais pas vous le faire, mais tout est dans le readme.txt, même sous Windows. C'est relativement clair. En dessous, c'est juste l'exemple sous Mac et Linux. Il suffit juste de rendre le script Rush exécutable. Et de le placer dans le répertoire slash user local bin rush pour que ce soit accessible de partout. Oh, super cette nouvelle télécommande. La configuration de rush, tout se passe dans un fichier nommé drushrc.php. Ce fichier, vous pouvez le placer à divers endroits, soit dans le répertoire de rush, soit dans un répertoire de votre utilisateur ou dans chacun de vos projets de rush. Si je ne me trompe pas. Et ça vous permet, l'avantage c'est que si vous le mettez dans un répertoire projet, vous pouvez créer des commandes Rush, quoi, ou une configuration de Rush spécifique à un projet. Le seul problème c'est qu'après il va vous falloir le créer pour d'autres projets. Alors quand on en a un global, quoi, c'est un peu l'inconvénient de l'avantage, mais si vous en avez un global, il est accessible pour tout le monde. Si vous commencez à en faire un pour chaque site, ça va être un peu de boulot. L'avantage, c'est que le jour où vous prenez votre site, vous le déplacez. Si vous avez toujours accès à Rush, vous avez toujours accès à votre commande et à votre fichier de config. Et moi, j'ai oublié. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, je vous ai pas dit ce qu'on pouvait faire dans ce fichier. Dans ce fichier, on peut configurer tous les chemins d'accès de votre site. Tout ce qui est passe. Des répertoires, des choses comme ça. Vous allez pouvoir créer les alias qu'on verra après. Dans ce fichier, vous pouvez créer vos propres commandes, surcharger certaines variables comme le nom du site. Pardon, c'est pas super, mais. Et vous pouvez pareil, paramétrer le chemin de votre dump si vous voulez faire des exports. Voilà pour la configuration. Comment ça marche? C'est pas très compliqué. Drush est accessible de partout. Quel que soit dans le répertoire où vous êtes, vous pouvez effectuer une commande Drush pour avoir toute la liste des options Drush et pouvoir piloter vos sites depuis n'importe où. Une commande Drush, elle se caractérise plutôt par forcément l'appel à la fonction Drush, une option, par exemple yes or no, une commande, help, et un argument, ça peut être un nom de module. Je pourrais faire la commande rush help cck. Non, j'ai rien dit. Sur ma nom de commande, rush help status, pour avoir les informations. Alors justement, l'aide, pour en avoir dans rush,
tapez un simple Drush et vous allez avoir toute la liste des commandes et des options disponibles. Si vous voulez de l'aide sur une commande en particulier, vous faites un Drush Help, le nom de votre commande. Avec Drush, pour moi, la documentation de Drush est relativement sérieuse puisqu'il y a tout dedans. À partir du moment où vous avez téléchargé le paquet, le projet, c'est autonome, vous avez toutes les informations dedans. Soit dans le fichier readme.txt, soit dans le répertoire slash examples qui vous donne pas mal d'infos sur comment créer des commandes, comment créer un alias de site, comment configurer Drush. Donc si vous avez besoin d'aide, référez-vous à Drush avant d'aller peut-être regarder sur le web. Donc là, on attaque une série de slides sur les différentes commandes de Drush. Il en existe d'autres, je n'ai pas tout mis. Ces commandes sont organisées sur certaines thématiques. Elles proviennent d'un memento que vous trouverez en fin de slide, en fin de présentation, qui vous le donne sous un format A4 toutes les commandes disponibles. C'est assez sympa de jeter un coup d'œil sur un petit format papier. Les commandes plus informations, core status pour avoir des informations sur votre projet. Site alias, c'est une commande assez intéressante. On va la voir juste par la suite, mais vous voyez que chaque nom de commande est précédé entre parenthèses d'un raccourci. Je ne vais pas dire alias pour ne pas vous embrouiller par la suite, mais c'est plus un raccourci de commande. Donc si vous faites un drush site-alias, la même chose qu'un drush SA. Voilà un exemple, un drush core status dans votre éditeur de ligne de commande pour avoir toutes les infos sur l'état de votre drupal. Voilà. Des fonctions plus de maintenance, les deux premières sont assez importantes, vous allez peut-être vous en servir souvent. UpdateDB pour mettre à jour votre base de données quand vous avez des nouveaux modules par exemple, quand vous avez des choses à mettre à jour. Et le cache clear, alors retenez bien, c'est Drush CC All, c'est un peu la commande magique quand vous avez fait des actions sur votre Drupal. Super, c'est très cool.
Le plus dur, c'est la ranger dans le sac.
La gestion des modules, alors vous allez surtout jouer avec celle-là, je pense, dans un premier temps. PM Enable ou EN pour télécharger les modules, Disable pour les désactiver, Uninstall pour les désinstaller, PM List ou SM, c'est une commande assez sympa parce que ça vous donne toute la liste des modules sur votre site. Et si vous voulez, vous pouvez faire chez vous un Drush SM Help pour avoir les infos de cette commande. Et grâce à cette commande, vous pouvez par exemple avoir une liste de tous les modules activés sur votre site. Au lieu de vous avoir à regarder dans l'administration un par un chaque module, en une toute petite commande, vous avez ça. DrushDL pour télécharger les modules. Et c'est vraiment DrushEN, Drush10, DrushDL, c'est les fonctions que vous allez utiliser.
J'ai une super question.
Ouais.
Ça veut dire quoi le PN à chaque fois qu'il y a partout en préfixe?
Package Manager. Voilà. Je comprends que les produits Apple soient si chers. Des commandes plus base de données pour avoir des configurations, créer des dumps, plus quand vous avez besoin de JavaScript ou des choses comme ça. Cette commande elle est assez sympa parce que ça vous permet d'avoir un export de votre base de données en une fraction de seconde. C'est vite fait, c'est rapide. Si vous automatisez ça, vous n'avez plus de raison de perdre des choses de votre base de données. C'est quand même sympa.
SQL Sync, ça fait quoi?
Celle-là, je la sais plus. Moi, je suis pas un expert. Non, je suis pas non plus le professionnel de Drush.
Pour l'envoyer sur un autre.
Mais je crois que c'est ça.
Oui. Ça synchronise de base, de serveur, ça de site
ça synchronise pas en fait, je crois. Ça va remplacer une base par une autre. Sur
d'accord.
Serveur, mais c'est pas.
Ouais. C'est pas du tout magique.
Voilà,
pas
avec un SSH, je vais faire des trucs.
Ok, merci.
Les variables, si vous voulez modifier certaines variables globales, notamment la plus sympa peut-être, c'est de mettre en une commande votre site en page maintenance. Ou pas. Ce qu'il faut retenir de Drush, Moi, en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que c'est facile à utiliser, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Jouer avec, et on en reparle dans une semaine, combien de temps vous avez gagné à plus télécharger de modèle. On a vu la première phase de Drush, ça nous a pris un peu de temps, comme vous l'avez dit. C'était un peu le passage un peu basique de Drush, mais je pense qu'il était nécessaire. Ça va être peut-être un peu plus compliqué pour certains maintenant, surtout si vous ne programmez pas. C'est pour créer des sites alias, des commandes et qu'est-ce que Drush Make. C'est d'autres outils, d'autres fonctions pour vous aider à aller encore un peu plus loin. En avant. Les alias de sites. Pourquoi créer des alias? Lorsque vous avez sur un serveur plusieurs installations de Drupal, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez devoir aller dans le répertoire de chacun de vos sites pour faire des actions. À chaque fois, ça va être un peu contraignant, vous allez devoir changer d'installation. Il existe, avec grâce aux alias, la possibilité de préfixer une commande par le nom d'un projet, par exemple. Dans mon l'occurrence, c'est Drush Sandbox, qui me permet de piloter directement mon site derrière. Donc c'est vraiment un accès facile au site. Avant, sans alias, je suis désolé, je ne sais pas si
vous... Je n'ai pas du tout compris la phrase que tu as dit.
Allez, t'es bon, merci.
Ouais.
par exemple, en fait. Avant, je ne sais pas si vous voyez en fond. Si.
Ouais, très bien.
Sans alias, en fait, il fallait préciser à la commande Drush le répertoire de destination de votre Drupal et l'adresse web de votre Drupal avant de pouvoir simplement lancer une commande. Donc c'est un peu contraignant. Maintenant, c'est simple. Avec un alias, vous faites un Drush arrobas le nom de votre alias, puis votre commande. Ce que je disais au niveau des répertoires, c'est si vous avez sur un serveur plusieurs projets Drupal, si tu veux aller faire des actions sur chacun de tes projets, tu dois descendre sur ton projet en fait.
Ouais.
Tu dois naviguer dedans. Si c'est pour plusieurs, tu dois à chaque fois changer de répertoire, refaire les mêmes actions. Alors que là, tu peux le faire depuis n'importe où.
Mais là, ce que je comprends, c'est qu'on donne pour un sous-répertoire, on peut faire un truc qui marche et qui fait sur toutes nos affaires d'un coup.
Ouais.
Je crois que c'est un projet, je ne suis pas sûr que ça ait débouché encore. De faire une commande sur une liste d'alias.
Là, ce que je comprends, c'est qu'on peut, c'est que, en gros, non, au lieu de rentrer dans le répertoire et de ressortir, je fais tout du même endroit à la suite, mais quand même, je dois le faire une fois pour chaque...
Pour le moment, ouais. Après, mais c'est comme tout, c'est vrai. Le but, c'est de faire des commandes en cascade sur des... Non, c'est bien, c'est une question. Des commandes sur plusieurs...
Sur un environnement, donc sur un site web, c'est peut-être juste parce que c'est du multi-site. Et qui serait donc sur le même environnement, mais il me semble qu'on peut faire sur une plateforme.
Ouais, je sais pas. Faut
tester. Après, ça se scripte.
Non, mais c'est vrai que l'idée est bonne. Pour bientôt, mais le fait de pouvoir préfixer plusieurs alias pour faire la même commande, c'est pas simple.
Et ça marche sur un site distant ou pas?
Oui,
de local, on peut.
Ouais.
Ah, c'est ça l'utilisation la plus intéressante en fait.
Ouais. Sauf qu'il y a certaines choses après, genre tu veux commencer à faire du MySQL en distant, ouais. C'est un peu plus compliqué.
Ça reste bien pour les choses.
Pour des actions basiques, ouais.
Genre.
Oui, par exemple, vous pouvez activer un module à un tel moment.
Par exemple.
Déclarer un alias. Pour la plupart des choses. Qu'on va voir après, en tout cas sous Linux et Mac, je ne sais pas. Il faut créer à la racine de votre compte utilisateur un répertoire nommé .drush. Et c'est dans ce répertoire il y a différentes façons de faire, moi je procède comme ça. Dans ce répertoire, je mets tout ce qui concerne mes commandes et mes alias dessus. Pour créer un alias, c'est simple. Dans mon cas, je crée un fichier qui s'appelle alias. Drushrc.php, toujours dans ce répertoire .drush, et dedans je lui passe deux paramètres, l'adresse web du site et l'emplacement de celui-ci. Est-ce que ma télécommande peut revenir en arrière?
Oui.
En fait, ça correspond à ça, hein, l'emplacement de mon site et l'adresse web. Pour plus d'infos, rendez-vous sur, comme je vous le disais, dans le répertoire d'exemple. Il y a une page énorme sur toutes les options que vous pouvez mettre avec votre alias.
Le point de rush, il faut le mettre. Ah oui, d'accord, à la racine du répertoire personnel.
Oui, oui, alors sinon tu peux le mettre, le fichier en fait d'alias, tu peux soit le mettre dans le répertoire de Drush carrément, ou dans chacun de tes projets. Donc, fait que lorsque tu transfères un projet, tes alias se baladent avec eux.
Dans le home aussi.
Pardon ?
Dans le home des users connectés.
C'est la deuxième ligne.
Donc voilà, j'ai mon répertoire point de rush avec mon fichier dedans. Et si je regarde ce qu'il y a dans mon fichier, c'est un fichier des langues basiques, de télécommande, encore des piles.
Non.
C'est le dissipeur.
Ah, merci. Voilà par exemple un alias pour mon site dev. Et j'ai précisé le nom de l'alias que je vais taper, que je vais précéder ma commande. Donc là, ce sera @dev, l'adresse web et le chemin. Alors, deux petites options en plus, que j'ai pris d'un exemple, j'avoue sauvagement, parce que je n'utilise pas Postgre. DBURL, si vous voulez préciser une adresse de l'adresse web, l'adresse de votre serveur Postgre, une base de données, merci. Et si vous voulez préciser un chemin, ça peut être sympa pour effectuer vos backups. Alors, je n'ai pas testé la dernière commande, pas cette dernière ligne. Il faut que je la passe.
Le fait de préciser DBURL, parce que tout l'intérêt des commandes rush, justement, c'est que tu peux aller faire des opérations dans ta base et scripter des opérations dans ta base sans avoir à écrire un username et un mot de passe en dur.
Non, je crois que ça, c'est pour quand tu veux faire, tu veux te connecter avec les commandes rush SQL, pour te connecter sans avoir.
D'accord. Non, enfin, les commandes rush SQL, elles marchent a priori avec la première forme. Que les credentials de la base, ils sont dans settings.php. Et c'est l'intérêt de passer par Drush, c'est que Drush connaît Drupal et connaît ce qu'il y a dans settings.php et peut aller taper ta base pour toi.
Oui, mais là c'est une base, ton dev il est local et ça te permet d'attaquer un stage à distance et tu me donnes des
credentials. Là on serait distant là.
Oui, je pense.
Voici la commande SA, Drush SA, pour avoir la liste des alias sur votre site, par exemple. Ouais. Prochain site. Je refais mon livre. Voici une commande. Bon, on l'a vu, vous précédez juste de votre alias, ce que vous voulez savoir. Par exemple, Drush Sandbox, et je fais un téléchargement de ce CGI. Les commandes Drush. C'est toujours. Soit vous pouvez les placer dans un fichier commande dans ce répertoire point de rush, soit si vous voulez avoir un module packagé et utilisable par tout le monde, vous pouvez mettre votre commande. Il suffit de précéder le nom de votre module .drush.inc et dedans vous allez pouvoir mettre vos commandes pour votre module. Ça, le jour où vous distribuez votre module, les commandes sont avec. Alors, juste trois petites étapes pour créer une commande. Premièrement, on va la déclarer pour que Drush en ait connaissance. La deuxième, on crée un peu d'aide pour l'utilisateur. Et troisièmement, on crée l'action de notre commande. Il existe un exemple qui s'appelle sandwich.drush.inc. C'est là-dessus sont basées mes prochaines slides. C'est l'exemple fourni par Drush pour comprendre comment créer des commandes. Bon, ça devient un peu barbare, mais vous voyez, là, je fais une déclaration à Drush, donc je lui précise le nom de ma commande, donc là, ça s'appelle « Make me a sandwich », une description, des arguments si je veux que mon utilisateur passe des arguments, des options, et une petite... Quand je vais taper un Drush help de ma commande, ce sera le résultat qui sera affiché à mon utilisateur. Des infos d'aide à mon utilisateur, un alias, si vous voulez qu'il y ait un raccourci sur votre commande, et enfin, si vous l'utilisez ou pas, le bootstrap de Drupal, donc si vous voulez charger toutes les infos, tout ce que charge Drupal avant de charger une page. La fonction d'aide, pour renvoyer à votre utilisateur un peu d'aide, et enfin, le code PHP de votre fonction. Bon, c'est pas très compliqué, mais il faut en avoir l'utilité. Oui.
Je comprends pas du tout à quoi ça sert. Enfin, qu'est-ce qu'on... Ah, je voudrais un exemple de commande, pas de l'assistance qui s'est créée, une commande qui pourrait nous donner du renseignement.
C'est une commande toute simple qui peut, par exemple, c'est quand tu veux désinstaller un module complètement, tu es obligé de le faire en deux étapes, tu peux le désactiver et après le désinstaller.
D'accord.
Tu peux faire une commande de raccourci qui fait systématiquement les deux étapes. Tu es obligé de faire un alias,
après,
une commande supplémentaire qui va te faire les deux actions.
D'accord.
Bon, là, c'est plutôt un exemple qui ne paraît pas très intéressant.
Donc au lieu de se
faire... Mais il y a... Tu vas devoir te débrouiller pour la télécommande.
C'est parce qu'elle dormait.
Si j'ai... Enfin, parce que, en gros, tu dis ces deux commandes d'affilée qu'il faut faire d'ordinaire, et là, tu fais une seule nouvelle commande qui fait les deux.
Ouais.
Donc c'est en fait juste équivalent à si tu fais un point .sh où tu mets les deux commandes.
Oui, okay. Exactement, c'est la même chose, c'est un gain de temps. Quoi.
Ok.
Oui.
Je pensais à autre chose, par exemple dans le module user, il y a un hook drush aussi qui permet de créer un utilisateur en ligne de commande directement.
Ouais.
Hook drush, donc je crois que c'est user add et puis un nom d'utilisateur avec un mot de passe, il te le rentre tout de suite dans la base. Et...
Mais ça existe voilà.
Ouais. Non, mais quand tu crées un module.
Quand tu crées un module, tu peux aussi implémenter ce hook là pour faire l'action que tu as besoin en lien avec ton module.
Créer une commande, c'est assez spécifique, on n'en a pas tous besoin, moi j'en fais pas tous les jours. Par contre, si tu crées un module en regard feature, on a eu une belle présentation le mois dernier sur feature, dedans il y avait les commandes rush pour exporter ces features, les importer. Les gens qui ont créé feature se sont dit on va mettre avec les commandes rush pour que ce soit facile pour les gens.
D'accord.
Il faut avoir un intérêt, justement, c'est difficile de trouver.
Il y a une vidéo très drôle sur Development Seed où on voit deux développeurs hein, qui utilisent rush, qui n'existent pas. Et... Celui qui utilise Rush a largement le temps de voir.
D'aller jouer au baby.
Ouais. Rush, ça va vraiment vous faire des nuits. Drushmaker, hein, c'est le gros morceau.
Wow.
Parce qu'on peut faire plein de choses avec Drushmaker. Autant de boutons que bon, c'est télécommande. Drushmaker, c'est pas inclus dans Drush. Ce n'est toujours pas un module. C'est quelque chose que vous allez devoir télécharger. Et en fait, ça va vous étendre les possibilités de Drush. C'est d'autres commandes pour Drush. Ouais. Vous pouvez télécharger DrushMake avec Drush. C'était marrant. Et il va vous le placer là où il faut. DrushMake, c'est la création d'un fichier .make. Dans ce fichier, il va y avoir toute une liste de choses à télécharger. Tout un tas de modules, de thèmes, de librairies. Tout ce que Drupal peut faire avant le démarrage d'un projet. Vous commencez un nouveau projet, vous installez Drupal, il n'y a aucun module. Si vous exécutez ce fichier make, dans lequel il y aura tous vos modules à télécharger, Drush va s'occuper de télécharger tous les fichiers, tous les modules un par un ou thèmes, et dans ce temps-là, vous aurez le temps d'aller boire un café, effectivement. L'intérêt de créer des fichiers .make, c'est la réutilisabilité des fichiers. Soit vous créez des fichiers ou un fichier par un projet, par exemple, si vous avez des distributions ou un profil d'installation, un truc bien précis, tout un tas de modules et de choses à télécharger, bah, c'est bien de l'avoir packagé. Après, vous pouvez faire des petits points make pour, mettons, vous avez une librairie d'images, vous voulez faire une galerie d'images, il y a, on les connaît peut-être pas tous, mais 5, 6, peut-être 7 modules à télécharger pour faire une galerie d'images, vous pouvez vous faire un point make pour cette galerie, pour ça par exemple. Pour télécharger Drush Make sur la page du projet, on est à la version bêta 9. Si vous ne passez pas par Drush, ça s'installe dans le répertoire .drush que l'on a créé. Il faut faire un nouveau répertoire qui s'appelle DrushMake. Tout est encore une fois écrit dans la doc. Donc difficile de faire mieux. Les nouvelles commandes de DrushMake, donc make qui nous permet d'exécuter un fichier make, generate makefile pour générer un fichier.make par rapport à un projet. Vous avez un site existant sur lequel il y a peut-être 50 modules installés. Vous générez cette commande et vous aurez tous les modules qui seront trouvés par Drush pour votre projet. Convert makefile, c'est pour voir si le format est...
Excuse-moi, j'ai pas compris.
En fait, si tu as un site,
avec plein de modules activés,
plein de modules tout court, tu fais générer un makefile, il crée un fichier avec tous les modules qui sont ou thèmes qui sont installés sur ton projet.
Ça veut dire que je prends ce fichier-là.
Je pense qu'il se base sur le playlist. Je ne sais pas si tu as les activés.
D'accord.
par rapport à feature, en fait, l'avantage ou la différence
avec les mêmes modules.
Par rapport au module feature, on ne peut pas faire les mêmes choses.
Feature, on ne fera pas le téléchargement des modules.
Le mec, j'ai besoin de ce module, celui-là, il ne fait pas de configuration.
Lui, il fait juste le téléchargement. Feature vous fera toute l'activation et le back-office derrière. Lui, il va juste vous télécharger tous les modules ou thèmes ou librairies que vous voulez. Je vous le disais, il y a soit deux méthodes, soit vous créez votre fichier .make à la main. Il y a un fichier d'exemple, encore une fois, dans votre make. Soit vous générez avec la commande générateur. Un petit exemple d'un fichier Makefile, il faut déclarer la version sur laquelle vous êtes en train de travailler, donc votre Drupal, une version 6 ou si vous voulez une version 7. L'API de. L'API de RushMake. Là par exemple, je vais en créant cette commande, project, je lui demande de me télécharger Drupal. Donc pour vous, dans un répertoire, par exemple, vous créez un répertoire, un nouveau projet sur votre serveur, vous générez ce fichier-là, vous exécutez plutôt ce fichier-là, make votre fichier.make, il va vous télécharger Drupal et tout un tas de modules, donc vous n'avez plus rien à faire. Et par exemple, le téléchargement d'un module.
Merci.
Désolé. Je ne vais pas te mettre sur les projecteurs comme ça. Il est possible de spécifier d'autres choses pour un module. Vous pouvez par exemple, si vous voulez les installer dans un sous-répertoire, vous pouvez mettre vos modules téléchargés dans un répertoire contrib. Ouais. Ou spécifier une version d'un module. Pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas passer à une nouvelle version, vous pouvez mettre en dur la version que vous voulez de use. Vous pouvez télécharger, bon, c'est un module que on va voir juste après pourquoi j'ai téléchargé jQuery. Vous pouvez pareil placer vos thèmes dans un répertoire country ou autre, ou très bien les laisser dans le répertoire thème. Voilà pourquoi jQuery, parce que vous pouvez télécharger la librairie associée à jQuery. Quand vous installez jQuery, le module vous demande d'aller télécharger jQuery, les fichiers JavaScript. Vous pouvez lui dire à votre fichier make d'aller me télécharger tel fichier, donc là c'est la version 1.7.3 de jQuery, de créer un répertoire qui s'appellera jQuery.ui et de le placer dans le répertoire ci-dessous qui est le répertoire du module. Donc quand vous n'avez plus rien à faire, ça vous télécharge pour vous jQuery. Exécuter un fichier .make, c'est simple, vous faites un drush make et votre fichier.
Juste pour ajouter, parce que télécharger un module contrib, on sait que tous les modules contrib sont dans des parfaits, et qu'il y a des patchs qui mettent longtemps à être commutés ou quoi, donc make peut aussi, après téléchargement d'un module, on peut lui dire d'appliquer tel patch, de le télécharger, donc soit d'une URL Drupal.org pour un patch en cours d'évaluation, soit d'ailleurs de votre SVN.
Mais est-ce qu'on peut télécharger un module qu'on aurait mis sur GitHub, par exemple?
Oui, tout à fait.
En module custom, par exemple. CVS, ouais,
tu peux télécharger de ton propre dépôt SVN, si tu veux.
Même si c'est un dépôt privé, qui
ouais, ne ouais,
ouais. pas sur un appareil, sur un nouveau compte.
D'accord. C'est dans le mode tag, qui n'y a pas de possibilité de get.
Il y a de l'interfaçage avec les principaux gestionnaires de code, quoi, SVN, CVN.
Ce qu'il faut retenir de Drush et de RushMake et tout ce qu'on a vu ce soir, c'est que Drush, c'est facile à utiliser. C'est un vrai gain de temps. C'est configurable et extensible. On l'a vu, on peut créer des alias. On peut aussi créer ses propres commandes. Et une fois qu'on y a mis tout, ça devient indispensable. Pour en savoir plus, je vous ai mis les pages des projets. Donc de Drush et DrushMake, la FAQ de Drush. Le memento des commandes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a permis à lister toutes les commandes. Et enfin, les quelques posts que j'ai fait sur mon blog. Un peu d'auto-promo. que vous avez des petites questions?
Les grosses. Fais les photos toi-même?
Non.
Moi, justement.
C'est la slide d'après. Il y a les crédits. Ouais.
Merci Julien pour cette belle présentation. Moi j'ai une question, donc je vois bien l'intérêt, j'utilise Drush pour tout ce qui est téléchargement de modules, activation, désactivation ou tâches d'administration à distance en maintenance. Effectivement c'est super, super puissant et ça m'aide bien. Maintenant je me pose la question, comment je peux faire pour automatiser également tout ce qui est configuration de mes modules. C'est-à-dire qu'une fois que le module est activé, bien sûr il faut aller faire du picotron dans l'IHM. Potentiellement faire créer des choses, du contenu qui pour notre module. Par exemple, je pense à créer de la taxonomie. Est-ce que dans ce cas-là, Drush est un bon outil pour ce besoin-là? Et dans ce cas-là, je pourrais faire ça dans une page PHP et puis j'exécute ma page PHP de configuration via Drush. Ou est-ce qu'il faut plutôt utiliser un autre module tel que Features ou encore quelque chose d'autre?
Ouais, enfin, ça va dépendre de ton besoin réellement, si c'est applicable à plusieurs choses ou pas. Si c'est assez générique, tu peux toujours créer des commandes ou des scripts qui utilisent Drush et ouais, ses différentes actions. Après, si c'est du cas par cas, comme intégrer une taxonomie sur un site, si c'est pas une taxonomie que tu dois mettre sur N site, ça vaut peut-être pas le coup de le faire en commande.
L'objectif, c'est pour minimiser en fait les étapes manuelles lors du staging. En développement, je peux faire les étapes manuelles Clicotron parce que justement, je veux voir comment configurer le module. Mais lorsque je vais passer sur l'environnement d'intégration de pré-prod ou de production, je veux au minimum faire justement des actions manuelles, d'où l'intérêt d'automatiser également ces actions. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu préconiserais, ou enfin, je m'adresse à tout le monde dans la salle, qu'est-ce que vous utilisez pour faire ces étapes de staging? Est-ce que c'est automatisé, la configuration de vos modules, ou est-ce que vous les refaites manuellement? Ou est-ce que justement on pourrait automatiser ça via Drush?
Est-ce que tu rentres dans la problématique du stockage de la configuration du CMS dans la base de données au lieu de fichiers? C'est une problématique qu'on essaie tous de résoudre tous les jours. Il y a des actions qui sont exportables dans le code plus ou moins facilement, ouais, par le biais de features entre autres, mais il y a encore beaucoup d'endroits où principalement on est obligé de faire les choses à la mano par du code dédié, on va dire, spécifique.
Si tu fais pas d'une clic-clic, tu es obligé de créer un
formulaire
module init en fait, un truc qui déclenchera toutes les actions.
Ce que j'ai regardé un petit peu, ça fait qu'un mois que je fais du Drupal, donc je n'ai pas encore forcément les bons réflexes. Mais c'est effectivement pour éviter le clic, il fallait créer un formulaire, l'exécuter, le soumettre dans le script PHP, et je trouvais ça assez galère. C'est comme ça qu'il faut faire.
Drupal vient d'un endroit où il est fortement axé au niveau de l'historique, il est très connoté clic-clic.
Ouais.
Il y a plein de choses dans Drupal Core et dans des modules qui sont commandés par du formulaire.
Ouais.
La tendance, c'est de plus en plus de s'appuyer sur des API propres et que la soumission de formulaire s'appuie sur des API, mais que la couche d'API existe indépendamment. Il y a un gros progrès dans Drupal 6 et dans Drupal 7. Les modules contrib, ils en sont où ils en sont respectivement, mais c'est un inconvénient qui est maintenant bien identifié. Donc les choses qui sont faites un peu proprement peuvent s'appuyer sur... on a relativement maintenant des API un peu partout. Donc il y a quand même moins besoin de cas en Drupal 5. Il y a encore beaucoup besoin de ça. À l'époque, ça a été introduit en Drupal 5, la possibilité de soumettre programmatiquement un formulaire. C'était magique, c'était dégueulasse. Donc maintenant, les cas où on est obligé de faire ça, c'est un peu la mort dans l'âme. Il y en a de moins en moins, c'est pas la bonne méthode. On le fait quand il n'y a pas d'API propre disponible pour faire l'action correspondante.
Merci.
Pour ta question ?
Oui.
Mon autre casquette de chauffeur de salle.
Tu m'as pris la question,
je pense que ça te crée un module. C'est ma télécommande. On a fait le talk. Partons sur les lighting talks. Discussion est claire. Le principe c'est simple, je vous rappelle, 5 minutes sur un sujet, chronométré, n'importe quel sujet, et tout le monde peut intervenir dessus, sans se tirer dessus, sans bruit. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Moi j'ai pas de talk.
J'en ai posté, mais je ne sais pas.
Ça parlait de multisite, si je me souviens bien.
Ah oui. Alors, pas de multisite, mais du coup, enfin, j'ai la réponse à ma question, parce que si on ne peut pas utiliser de rush sur du mutualisé, on est obligé de se prendre son serveur et de se le faire soi-même, quoi. Oui. Bah, si on veut faire du rush, non. Philippe.
Non, bah sinon, en mutualisé, ce que tu peux faire, c'est avoir tout site en local et puis faire synchroniser avec R5, synchroniser, modifier.
Quand tu démarres, tu fais des actions en local et après, des fois, c'est sur le serveur.
Non, mais déjà, juste en local, c'est un problème, si tu peux pas utiliser en mutualisé, juste en local, c'est facile. Ouais. Pour un site, au moment où tu développes. Enfin, moi, je m'en sers pas en local, en déjà. Enfin, pour l'instant, je m'en sers pas en local. Je suis bien content d'avoir en local quand même.
Bon, bah, sondage alors. Est-ce que c'est mieux d'avoir son serveur et de se faire tout ses installs tout seul, tout le monde chez base? Enfin, qui fait quoi? De faire un mutualisé par projet?
J'ai mis d'avoir son serveur.
Là, il dit aussi.
Est-ce que tu peux faire une installation multisite? Sinon, on ne peut pas faire si on a un projet par serveur mutualisé.
Ouais.
C'est l'avantage que j'ai trouvé, moi.
C'est forcément limité d'une façon. Il y a plein de petites limites qui vont être chiantes, à part pour des multisites. D'accord. Ce sera limité à un moment ou à l'autre.
Et plutôt façon, multisite ou plutôt plusieurs bancales?
Là, j'ai pas
l'avantage. Multisite, c'est vachement avantageux. Après, je ne sais pas en termes de performance ou s'il y a d'autres inconvénients, mais là, je trouve ça très bien.
Un inconvénient, c'est la migration qui est hyper chiante.
Ouais, parce qu'avec Drush, on gagne beaucoup de temps sur les updates, les mises à jour de modules. Donc, si tes sites ne sont pas strictement identiques, je veux dire, en termes de modules.
Mais on n'est pas obligé d'être identique. On peut avoir les modules, deux versions d'un même module si on le met dans Hall ou dans le répertoire du site en question.
Oui, tu peux, mais.
Après, tu peux te croiser les pinceaux en
mode. Ouais, c'est ça.
Et tu peux trouver sur une installation, moi j'ai eu le cas il y a 2 ou 3 ans, où j'avais fait une update, une mise à jour d'un module qui n'était pas parti dans le bon répertoire. Mm. Et j'avais des erreurs complètement aberrantes. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait mon transfert sur un mauvais répertoire. Donc ça peut être un risque dans le cas. Moi, ma position, c'est serveur dédié parce que c'est pas le serveur qui coûte cher. Et puis, quand tu as un dédié, en fait, tu peux mettre autant de sites.
Serveur dédié et multi-install.
Serveur dédié et.
À 15
oui, peut-être même. Donc, c'est quand même vachement avantageux.
VM.
Après, pour la
base,
ouais.
Ouais.
Mais. Pour avoir la main
sur. Je sais pas quelle est la vie des autres.
Bah oui, la recommandation, c'est forcément de dédier pour avoir la main sur ce que tu veux faire, forcément. Après, c'est une question de coût. Ça, c'est un dossier avec ton client en général. Mais c'est quand même moins de problème d'avoir un serveur dédié que d'avoir un serveur mutualisé. À passer du temps à jouer avec tous les problèmes qui sont liés et au final, ça aura plus de problèmes que ça offrira davantage.
De toute façon, on sait bien aussi que Drupal est super gourmand au niveau de la mémoire consommée par PHP. On est pas rare à foutre des PHP une memory max à 128-256. Mmh. Sur du mutualisé, c'est juste impossible. Il n'y a aucun hébergeur qui va accepter de monter, je sais pas, 40-50 quoi. Enfin, c'est au détriment de tes autres clients et c'est les autres clients qui vont râler après. Donc,
parce qu'en fait, tes 15 ou 30 ou 20 euros par mois, tu vas vite les récupérer. Tu perds une demi-heure, une heure sur une connerie, tu nous as mis en l'air. Donc, ce que je veux dire, c'est que les contraintes, les problèmes que tu peux générer avec du mutualisé,
ouais.
Vont te coûter beaucoup plus cher que
un
petit serveur pour le monde. Quoi.
Mais du coup, ce que je comprends de ce que tu disais, c'est un petit serveur dédié par site.
Moi, tu fais des virtual hosts.
Non, je viens pas. Non, forcément, mais si ton client a budget, oui. Soit toi, tu prends la charge de l'hébergement, de dire, bon, je vais pouvoir héberger tous mes clients sur la même machine, ça veut dire que c'est toi qui vas avoir la charge de gérer la mise à jour des paquets sur la machine et ce genre de choses. Soit ton client il a un petit peu de budget, tu lui dis ok, on prend une machine ou vous nous fournissez une machine systématiquement, et derrière toi tu arrives, tu dis j'ai besoin de rush vers telle chose, et t'as pas besoin de forcément faire la maintenance dans la durée, mais la recommandation c'est soit au moins une machine virtualisée, soit un serveur dédié.
Juste une toute petite.
Pour des petits projets associatifs, le mutualiser poserait problème, hein, tout de même.
Bah,
Ou est-ce qu'il vaut mieux passer sur du dédié virtuel?
Quand on dit petit site, c'est pas forcément en termes de trafic qu'on raisonne, ça va surtout être en quantité de modules. Plus vous allez avoir de modules, plus ça va consommer de mémoire, comme le disait Nicolas, ça va être le principal problème. C'est pas parce que vous allez avoir 50 ou 100 utilisateurs simultanément que vous allez devoir limiter un serveur Mutualis. C'est si vous avez un 5, 50, peut-être 100 modules, ce qui peut arriver quand même assez facilement avec Drupal, c'est là que ça va justifier le fait que vous allez avoir besoin soit d'un serveur virtualisé, soit d'un serveur dédié.
Parce qu'en gros, ça veut dire que peut-être tu pourras plus ouvrir la page des blocs au bout d'un moment, il y a des modules, etc. Ça devient ingérable.
C'est un peu très.
Ouais, ça les bloque là.
Donc, c'est très bien ça.
Est-ce que pour les petits budgets, Drupal est la meilleure chose à mettre en œuvre?
Je dis pas que ça peut pas se faire visualiser, mais c'est clairement avec trop de modules, ça passe
pas.
À un moment, tu as une limitation sur Garden en termes de page, en termes d'utilisateur. C'est toujours pareil, c'est pas pour rien qu'il y ait une version gratuite et une version payante. Il y a un moment, si on a besoin, il faut pouvoir mettre.
Non, mais même la version payante, elle est quand même pas très chère par rapport à faire un développement complet.
On ne parle que d'hébergement pour l'instant, on ne parle pas de la prestation de développement.
Le petit budget, ça comprend pas que
9 euros par mois, tu trouves des VM. C'est pareil que.
Qui c'est qui a oublié de mettre le chrono pour le même
C'était poli, tu l'as dit.
Justement, ça pourrait déboucher sur notre question, à savoir, là, c'est peut-être pas la problématique pour ceux qui font du service, mais si on doit choisir un mutualisé, chez qui? Un truc qui serait, je sais pas, est-ce qu'il y a un top 3, un top 5, un mutualisé, un hébergeur en mutualisé?
Quelqu'un connaît Calliost?
C'est un système moins cher en rapport qualité, enfin en rapport performance plutôt.
Comment il s'appelle?
Etzner. Le seul inconvénient, c'est que le service après-vente, c'est un mauvais anglais avec un accent.
Nous, il y a un Fromania.
Sinon, pour un coup, j'héberge plusieurs sites chez PHPNet, hein, qui est à Grenoble et qui est bon, on les avait assez réactifs et des serveurs.
Il y a les
trains
VH et OneMoine. Hein, ouais. Ah, ouais. Ouais. Ouais.
Linode.
Typhon aussi, apparemment.
Ça devient déjà aussi pour du gros site, normalement.
Je crois que c'est pour du motion.
Non,
c'est plutôt de l'infrastructure.
Petit client, ça ne m'intéresse pas. Un autre sujet peut-être. Personne n'a entendu quelque chose autour de Drupal qu'il aimerait savoir ce que c'est ou...
Non, mais j'en ai d'autres.
Moi, je voudrais savoir, à chaque fois qu'on fait un site, on doit télécharger Drupal. C'est ça, on doit à chaque fois qu'on fait un site, on télécharge Drupal.
Il y a plusieurs philosophies, on va dire. Soit vous avez un site qui va être pour un client, qui va avoir un besoin précis défini, pour lequel vous allez avoir au minimum un Drupal. Si vous avez un deuxième client qui a, on va dire, à peu près exactement les mêmes besoins, vous pouvez faire du multisite, ce qu'on appelle du multisite, ce qui va pouvoir partager des modules ou aura des modules spécifiques, mais vous allez pouvoir faire tourner plusieurs sites dans la même instance de Drupal. Sinon, vous allez devoir installer un Drupal par client.
Après, en termes d'installation, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la manuelle avec Gumrush, il y a Aegir, mais qui demande d'installer déjà une plateforme Aegir.
Aegir, c'est une distribution de Drupal qui a pour but de pouvoir créer ce qu'on appelle des plateformes. Et une plateforme, c'est quoi? C'est une installation de Drupal sur laquelle je vais trouver des profils d'installation. Donc je vais pouvoir faire un site produit commerce, un site sur de la gestion de news sur un intranet, par exemple. Et sur une plateforme, je peux avoir autant de profils d'installation que je veux, je peux avoir autant de langues que je veux, mais je peux avoir autant de sites que je veux. L'idée, c'est de pouvoir maintenir des installations de Drupal par lot. Vous allez pouvoir faire des actions de maintenance, ou transférer des sites de l'un à l'autre, de les activer, les désactiver, ce genre de choses, et pouvoir mutualiser la gestion de sites sur des plateformes. Aegir peut répondre à cette problématique de dire j'installe un site, la différence c'est qu'Aegir ne va pas pouvoir faire du multisite sur une installation Drupal, ça va être une installation à chaque fois, par profil. par plateforme. Une plateforme, une installation de Drupal. Et après, c'est du multisite.
Le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir, on ne peut pas avoir default, on est obligé de mettre notre site à chaque fois. Mais à la limite, en créant des liens symboliques, on doit pouvoir. Sur Egypte, tu ne peux pas installer ton site sur le site.
Ah, mais oui, il y a forcément un minimum une plateforme, puisqu'il y a le profil du Postmaster pour site principal. Il y a forcément une plateforme.
Il y a des conversations, clairement. C'est très intéressant parce que si tu veux par exemple installer un autre une fois que ton AJR est installé dans le Mercure, tu deux clics, tu donnes ton site, et deux clics, il te crée un site de Mercure.
L'idée c'est de pouvoir réutiliser à partir du moment où vous êtes amené à faire. Vous avez fait un site de site et vous voulez en faire plusieurs du même style, c'est super facile de déployer un nouveau site, c'est trois clics.
Comment ça s'appelle ça?
Vous pouvez
par rapport à EGIR, il y aura une formation en janvier à Paris. Les gens veulent avoir des informations.
Et moi je pense qu'à EGIR, en fait, à Lyon, il y a une boîte qui travaille sur le fait de production de plateforme à EGIR pour faire de l'hébergement. C'est très accessible en fait, pour les associations. Le client pourra acheter son hébergement. Et pouf, il y a un site Drupal qui est préinstallé.
Ça marche avec Drupal ou
Si on veut voir un site Drupal,
c'est une installation Drupal qui gère.
Si vous allez sur le site qui s'appelle webenable.com, vous voyez, vous pouvez créer même un compte de compte. C'est une sorte d'instance que vous voulez d'Open Atrium à Open Atrium.
Moi j'avais une question, j'ai un client qui se posait une question, il a commencé à développer du contenu en français et en anglais, et puis il se dit, tiens, j'aimerais bien ne pas ouvrir la partie anglaise. Donc pour l'instant on a une solution qui semble fonctionner, mais je pose la question, vous seriez dans ce cas de figure, vous avez un client qui veut pouvoir créer des contenus sur la plateforme de prod déjà, dans une nouvelle langue, mais pas l'ouvrir au public quand vous feriez.
Ah ouais, bah moi j'ai la même question.
Moi je mets pas le blog, tu mets pas le blog du language switcher, ouais, et voilà, les gens ils savent pas ça.
Mais c'est nul parce que ça
avec c'est quand même. Ils se disent on n'a pas envie qu'ils arrivent sur une. Pour l'instant on a une solution mais j'aimerais bien avoir vos
tout entendu si ce n'est mon site slash n, j'accepte le contenu en anglais, c'est ça?
Voilà.
Ouais, c'est voilà.
Ben, il faut faire un traitement au moment du chargement de la page, je pense, disant est-ce que tu as le rôle à être administrateur? Si tu as le rôle administrateur, tu es autorisé à afficher la page, sinon je te redirige soit vers la page 403 qui est une page d'erreur, soit vers la page en français,
oui,
en gardant la même URL.
Ouais. Ouais, c'est pas mal ça.
C'est une approche possible. Après, je ne sais pas si vous avez un besoin extrêmement précis sur les
est-ce actions. Est-ce que quelqu'un a utilisé PassAccess, un module qui s'appelle PassAccess, est-ce qu'il fait ça? Je ne sais pas. Ouais. J'ai le temps de regarder. Parce que l'astuce qu'on a trouvée, en fait, c'est de changer le pass de la langue anglaise pour l'instant.
Sauf que si votre utilisateur le trouve, il y a accès.
Oui, ouais, voilà, c'est pas ça. Dramatique.
Mais ça, avec Rules, là, c'est une bonne idée. Là.
Si ça commence, ouais.
Les contenus traduits, c'est des nodes distincts. Donc, ils peuvent avoir les contenus anglais, peuvent avoir leur propre état de workflow.
Non, en l'occurrence, ils ont monté des nœuds avec. Dans le nœud, tu as un calcul automatique de traduction. En fait, tu as essentiellement des taxonomies qui sont traduites. Et ce que voit l'utilisateur, c'est la traduction taxonomique.
Ouais, donc c'est pas une vraie node.
Ouais. Voilà. Donc,
c'est quoi, c'est language section ou c'est quoi?
Et sur quoi il se non, bah, parce que là, à ce moment-là, tu mets en dur, tu mets au lieu de détecter la langue, tu mets que tu es en français, et puis voilà. Ah oui, non, en fonction de.
Non, parce qu'ils veulent pouvoir. Le faire ils quand veulent même. Pouvoir eux mettre en contenu.
Ouais, mais sur un role access, enfin sur un. Tu check le rôle, s'il a droit, tu te mets. Ouais.
La télécommande.
Mais c'est ce que vous avez fait. Déjà, quasiment dans votre code, une faute de ligne de plus, c'est tout.
Mais sauf qu'on n'a pas l'info de.
Du rôle, bah si.
Aussi.
Ouais, tu crées, c'est, ouais, c'est plus, je sais plus ce que c'est le nom de la fonction, mais.
Non,
T'as forcément un bout de code dans ce que tu dis où tu switches, où tu dis si jamais je suis en français, j'affiche ça, si jamais je suis en anglais, j'affiche ça, ça si je comprends bien, c'est ce que vous avez fait.
Ah oui, oui, mais là, il ne devrait pas reprendre. Oui, ça, c'est du code maison.
Voilà, donc dans ton code maison, en amont, il y a un moment, tu check où tu dois récupérer ton global dollar local. Ouais. Et à ce moment-là, tu check et tu dis bah, si jamais j'ai le droit, je récupère la locale, et sinon, c'est français. Et puis
ouais,
voilà.
Ouais, c'est pas mal. C'est non, mais je voulais avoir un peu un retour s'il y avait d'autres
idées. Bah, vu que vous avez fait un truc custom, vous avez forcément tombé sur un truc custom. Quoi. Sinon, c'est vrai qu'en une requête dans la base, tout ce qui est en anglais, tu le dépublies.
C'est un projet pour les aider à terminer, mais là, c'est pas moi qui l'ai fait, j'aurais pas fait le projet. On va passer à une autre question.
Ouais, moi j'ai la question juste en amont en fait. Ah. Comment on fait un site en plusieurs langues?
Ça c'est utile ce Drupal 7.
Avec Drupal 7.
Non, il n'y a pas besoin de Drupal 7 pour faire un
site en plusieurs langues.
Facilement, on peut. Moi je peux te répondre.
Bon, la nouveauté de Drupal 7, mais c'est une nouveauté qui n'est encore pas complètement contrôlée. Bon, la méthode classique, je ne sais plus si elle est introduite en Drupal 5 ou 6, mais en Drupal 6, un contenu, un node, peut avoir une langue attribuée. Et si on souhaite traduire le contenu, on compose un autre node. Sur le formulaire de création de ce node-là, on a des valeurs pré-remplies en disant on parle du texte français, on peut remplir à la place le texte anglais. C'est un autre node qui est créé. Donc on a en fait des contenus qui sont dupliqués en autant de nodes. Ça commence à devenir un peu compliqué quand on se met à avoir des relations entre les nodes, du champ node
référence.
Voilà, t'es venu avec ça.
Chaque node a une langue. Soit il n'a pas de langue, c'est-à-dire qu'il n'est pas traduit, pas traduisable, il ne rentre pas dans le système de langue, mais tes nodes tu as des nodes différents pour chaque langue. Ça devient un peu touffu à suivre quand on commence à faire entrer des relations, c'est-à-dire un champ node référence qui relie un node à un autre node. En général, on relie un node français à un autre node français. En général, on va vouloir reproduire la même relation côté le node équivalent en anglais. Et le node B' pour le côté anglais. Bon, et on sait que plus un site grossit et plus les features se grossissent, plus on se met à avoir des relations un peu dans tous les sens, ça peut être un peu ardu à suivre. La piste qui a été suivie, mais c'est le boulot a surtout porté sur Drupal 7, sur le fait de rendre ça possible, sur le fait en Drupal 7, les champs sont traduisibles. C'est-à-dire l'info de langue est portée non pas par des nodes différents, mais au sein d'un même node, le champ a un champ a une valeur en français et une valeur en anglais. Donc on reste sur le même node, ce qui fait que, entre guillemets, le contenu français et le contenu anglais peuvent avoir les mêmes termes de taxonomie. Si on décide que le champ taxonomie, lui, n'est pas traduisible, ils vont avoir les mêmes valeurs qu'on voit le contenu en français ou qu'on voit le contenu en anglais. On peut décider.
Non, t'as rien à faire.
Voilà, du coup, ça simplifie les choses sur le fait de quand on a des relations entre des nodes, on n'a qu'un node à suivre. Maintenant, cette piste-là, très clairement, elle est encore expérimentale. C'est-à-dire, ce qui est rentré dans le corps Drupal 7, c'est le support.
Il n'y a pas d'interface.
On ne sait pas encore complètement très bien à quoi. Comment ça va être viable?
Ça veut dire qu'on peut le faire avec la base de données?
Ça veut dire que le code le supporte. Ça veut dire que quand tu enregistres ton node par du code.
Je peux aller chercher mon node dans ma base de données, puis avec mes petites mains, mettre ma traduction dans la table.
En écrivant. Oui, alors si tu veux taper dans le PHP admin, tu peux aussi écrire du code en disant $node égale machin, telle valeur de tel champ en anglais, c'est ça, en français, c'est ça, node save, c'est enregistré.
Okay.
Je ne suis pas exactement certain à quel point ça va être effectivement actif sur j'ai demandé telle URL /fr/node12. Je vois le contenu, les valeurs des champs en français et /en/node12, je vois les valeurs des champs en anglais.
Concrètement, quand tu ajoutes une langue, tu actives un module qui te multiplie par deux la taille de ta table pour avoir la place pour mettre les champs traduits.
Non, les champs qui n'ont pas de valeur n'ont pas de registre. Si ton champ n'est pas encore traduit en anglais, il n'y a pas de ligne en base pour le contenu anglais. C'est quand tu créeras ta traduction anglaise qu'il va y enregistrer le contenu anglais. Mais tu ne doubles pas d'un coup la taille de ta base simplement parce que tu as...
Et c'est de base, il n'y a rien à faire.
Alors, la partie interface utilisateur de ce système-là, les champs traductibles, enfin translatable fields, ça va être dans un module additionnel en contrib, qui est en train d'être, je ne sais pas où ils en sont exactement.
C'est pas comment ce module ?
Il vaut que pour 7, puisque ce principe de la traduction et la granularité de la traduction, c'est champ par champ, et pas node par node, c'est exclusivement Drupal 7. Mais c'est encore, il est vraiment fort possible que en Drupal 7, ça a des gros défauts et que ça marche réellement en Drupal 8. Je ne sais pas. On est Drupal 7 sera là pour découvrir. L'ancienne méthode de traduction des nodes marchera toujours en Drupal 7.
Parce que sinon, ça crée autant de produits qu'il y a de langues. Pour Drupal Commerce, ils seront obligés de l'avoir, ce truc-là. Parce que ça crée autant de produits que de langues.
Ouais, ça te demande autant. J'imagine que Drupal Commerce va pousser très fort pour que la solution de Translatable Field soit viable.
Mais elle est bonne, hein, c'est bien, parce que sur Drupal 6, on galère quand même avec les traductions.
Ouais, mais je pense qu'il y a aussi bien moyen de galérer avec.
Ah ouais.
Deux approches différentes
peuvent
avoir un intérêt selon
le projet. Le point important, c'était de rendre ça possible pour Drupal 7 pour que s'il y a des murs dans lesquels on va rentrer, qu'on puisse rentrer dedans et se dire d'accord, donc les problèmes sont ça. Mais l'ancienne manière de gérer les traductions, quand c'est possible, et c'est la méthode par défaut dans Drupal 4. Moi je me tais.
Donc pas de solution magique encore pour nous.
Non, des nouvelles pistes.
J'avais peut-être une question, savoir comment vous faites de votre côté. On a vu un peu la difficulté qu'il y avait de passer par exemple en pré-prod, de pré-prod en prod, etc. etc. Et je voulais savoir comment vous faisiez spécifiquement pour les variables. C'est-à-dire, l'idée c'est je suis en pré-prod, je clique un peu partout, je modifie toutes mes variables, et puis je veux passer en prod par exemple. Comment vous faites ? Est-ce que vous allez rechercher le nom de chaque variable, ou passer par StrongArm, que vous allez rechercher les variables et puis vous faites un petit module qui remet les variables là où vous voulez, ou vous utilisez un module, vous faites comment spécifiquement pour les variables?
Je pense que si c'est que pour les variables, je ne sais pas si vous l'avez montré le mois dernier, mais Future et StrongArm le fait très bien.
Non, il faut mettre un autre. Il y a un module qui s'appelle Future Record qui permet d'avoir toutes les valeurs de StrongArm en fait, automatiquement. Pendant qu'on fait le code rôle, voilà, ça va vous donner tout ce qui a été modifié dans la table.
On ne peut pas faire ce qu'on veut quoi, dans ce module. C'est
il n'y a pas vraiment de solution miracle qui enregistre c'est la cliquée.
Aujourd'hui, ça n'existe pas de dire je suis sur cette page là, je clique sur un bouton et je dis ça, je veux l'enregistrer ou je veux pas l'enregistrer.
Pour répondre à ta question, tu as un truc qui va t'enregistrer tout ce qui s'est passé.
Voilà, mais tout, oui, on est d'accord.
Tu récordes, apparemment, tu le lances, tu fais tes actions.
Je connaissais bien le système, mais enfin, moi je cherchais un système un peu plus précis en ce sens que par exemple.
Il va bien te donner quand est-ce que le jambon a joué, etc. Il faudra supprimer ce nombre de choses.
Étant donné que les modules ne délivrent pas par défaut quelle variable c'est difficile pour le module de dire bah, moi j'ai modifié tout ça. Il faudrait peut-être quelque chose pour la création des modules, c'est le problème récurrent de Drupal, c'est de sortir la configuration de la base de données, que les modules prévoient un export en fait.
Ce que je fais, c'est quand justement je vais configurer mes modules, bah c'est un peu les deux, c'est-à-dire que soit je le mets dans le fichier install du module, où là je vais directement attaquer les API Drupal pour configurer mon module si je peux et si mon module me permet de donner ces API. Si je suis pas clair, tu dis surtout pas m'arrêter. Soit sinon je vais faire un fichier PHP que je lance par Drush. Donc et là c'est du coup de c'est Kratos, hein, je suis d'accord avec toi, mais c'est du coup de je crée un formulaire au sens Drupal du terme et après j'exécute le formulaire. Donc en fait c'est comme si je l'avais fait via interface. Voilà. Après c'est une question de curseur, c'est-à-dire est-ce que c'est plus simple de faire un script et que ce soit automatisé pour la mise en production, ou est-ce que c'est plus simple de le refaire manuellement sa mise en production. À chaque fois c'est un curseur à mettre et parfois j'automatise pour certains modules, des modules qui sont parfois très, très complexes à mettre en œuvre et justement où tu dois être très concentré lors de la mise en production pour pas avoir de problème là-dessus. Et parfois je le fais à la main, mais effectivement il n'y a pas de solution miracle, on l'a bien tous vu.
Parce que je vais créer un module relativement simple sur le sujet, je vais être sûr que ça n'existait pas déjà.
Mais bon, là le problème, voilà. J'ai une bof ou la technique, putain, le coup, je sais pas quoi.
Il sort quand ton
Dernière, moi j'ai une question pour les contributeurs. Actuellement, là, si on commence sur le 7, donc on entend parler de Git et donc abandon de CVS et SVN par la NEM. Ça en est où? Parce que moi je suis intéressé pour contribuer par exemple, je ne sais pas du tout par où commencer là. Parce que Git c'est officiel, c'est pas officiel.
Une migration,
une sorte de migration
que ça va se faire.
Tous les jours, mais sur un Git, mais c'est pas officiel ça.
Pardon?
Il y a un
miroir Git de tous les
miroirs
Drupal.
Ouais,
le problème c'est que tu peux pas pousser de modifications dessus encore, je crois.
Donc on voit
que tu récupères, tu commites forcément par CVS sur le CVS.
Mais je crois qu'il doit y avoir des alias Git, enfin des extensions Git qui permettent de pousser des choses vers CVS. Je sais qu'il y a Ryan Drama qui a un miroir en place qui pousse automatiquement de son GitHub vers le CVS, donc ça doit exister. C'est encore un code bordélique, mais ça doit exister, je pense. Ouais. De la même façon que tu as un Git ou SVN, tu dois avoir un Git ou CVS, quelque chose dans le genre.
D'accord.
Mais il prévoit bien de passer à Git bientôt. Hein.
Ouais, parce que
c'est quoi Git payé pour
vos Git, c'est un système de version de dépôt de fichiers. Tu connais SVN ou pas? T'en as entendu parler? En gros, ça te permet de dire j'ai mes fichiers de Drupal, admettons, dans mon thème. Mon thème, j'ai mes fichiers de CSS, par exemple, mon bloc est rouge, il est écrit comme étant rouge. Maintenant, je veux qu'il soit bleu. Je fais ma modification, je peux la sauvegarder et le stocker à un endroit qui dit ok, j'enregistre toutes les étapes qui ont été faites. Demain, le bloc il est bleu, on veut le faire revenir en rouge. Bah, je peux revenir en arrière. Je n'ai pas à refaire la modification à la main. J'ai des outils qui permettent de le faire de façon automatique.
Et quand on en a assez bon, accessoirement, ça veut dire un peu isolé.
Et accessoirement,
ça veut dire les problèmes de conflit dès qu'on développe à plus de
deux heures. Ça aide aussi, voilà, au travail, il y a plusieurs, tu as plusieurs personnes qui travaillent sur le même fichier, ça peut gérer des modifications de fichiers, des fusions de fichiers.
Oui, après il y a toute la notion de branche qui permet de voir les environnements, les mises en prod,
de tout un site live, de faire des modifications mais qu'elles ne soient pas répercutées tout de suite sur le site live pour éviter tout casser au cas où il y a des problèmes.
Je voulais savoir, en fait, le niveau de détail qu'on peut remettre en arrière, c'est vraiment très très fin, en fait.
Ah oui, c'est ligne par ligne de fichier. À partir du moment où c'est un fichier, on est capable de le partir. C'est pour ça qu'on a cette problématique d'exporter des choses qui sont en base de données dans un fichier pour être capable de retourner en arrière s'il y a besoin.
Et la visualisation, c'est un peu comme un patch, on voit des plus et des moins.
C'est basé sur le principe du diff, de la différence entre deux fichiers.
Ouais. Attention, c'est marrant parce que tout à l'heure j'étais sur un adob de Notepad 6 et j'ai mis la configuration d'un module que j'avais fait dans un fichier pour lui. J'ai récupéré avec la fonction Drupal parse info, qui est très bien. C'est écrit en énorme lettre majuscule. Ne faites jamais ça avec un module, ne mettez jamais votre configuration dans les fichiers. Là, j'ai fait ok, il y a du chemin à faire encore au niveau. Parce que c'est vraiment écrit en capital majuscule sur la doc.
D'accord.
Bon, je suis pas sûr que ce soit pour Drupal 8. On verra, mais voilà, c'est vraiment pour que les utilisateurs qui ne savent pas servir Drupal puissent avoir la première configuration. Quoi. Donc ils incitent à tout prix à faire des trucs dans le kit. Moi j'étais content, mais on va dire danger. J'ai choqué tout le monde en mettant mes trucs.
Bah, c'est très user fané d'avoir un fichier.
C'est pas pour les utilisateurs, c'était pour nous.
Ah, tu veux pas contribuer après quoi.
C'est pas pour contribuer, c'est pour développer. N'empêche que c'est pas un truc du tout en fait dans les gens.
Et il y a un moment où il faut aussi un peu standardiser les choses. Quoi. Quand on soit en l'un, soit en l'autre, c'est comme ça.
Ouais, mais bon, écrire des updates à chaque fois que tu changes la moindre variable, avoir une table de variables avec la moindre variable.
Il y a des avantages et des inconvénients à toutes les approches.
Comme ça, peut-être, c'est écrit vraiment en gros.
Sujet suivant.
Si vous en avez encore, ouais. Vous
n'êtes
pas épuisé.
Moi j'aimerais bien savoir juste qui a déjà utilisé OpenLayers pour faire de la cartographie sur Drupal.
Je pense que des Italiens, des Suisses, mais en France.
Non, je sais pas. Personne n'a utilisé. Partagez un peu ce que vous faites avec. Parce que...
Non mais il y avait des sessions là-dessus au Drupal Design Camp il y a 10 jours là, et les vidéos ont été mises en ligne. Donc,
c'était une simple introduction à la session de Prague. Ouais, c'était plus détaillé la session de Copenhague finalement que celle de Prague.
Ouais. En quelques mots,
c'est quoi ? C'est un module de cartographie qui sert à placer tous les objets Drupal, les nodes, les users, même les termes de taxonomie, les géolocaliser et les placer dans les maps, dans des Google Maps ou des quartiers Yahoo, Bing, même ses propres fonds de cartes qu'on peut plus ou moins intégrer sur open source. Et c'est plutôt flexible, on s'en sert un petit peu et je trouve ça pas mal, mais je voulais savoir si d'autres personnes ont
conservé. Il y a Location qui fait ça aussi déjà.
Comment ?
Location, il permet de faire ça. Là.
Location, géolocalisation, il n'y a pas la visualisation.
Oui, il n'y a pas la façon aussi précise que le fait OpenLayer.
C'est pas aussi puissant.
Parce qu'après, on peut avoir des calques superposés sur les cartes pour faire des actions de visualisation précises.
Faire des views et puis dans ta views, tu as les objets sur les
OpenLayer, je crois qu'ils sont en train de la développer pour la 7 également. Enfin, ils ont prévu de porter pour la 7. L'avantage en fait d'OpenLayer, c'est que le contenu qui va sur la carte, il est tiré de la base de données avec Vue. Vue, on peut aller chercher très précisément des contenus et des filtrer. Et donc l'avantage, c'est de pouvoir aller chercher vraiment très précisément les contenus qu'on va afficher, dynamique, avec des arguments ou des filtres. Tout ce qu'on peut faire avec Views, on peut l'afficher avec OpenLayers.
Mais qui affiche la carte alors finalement ? C'est une carte Google comme dans Location et...
C'est toi qui choisis la carte justement. Après, on peut choisir les modèles cartographiques qu'on veut. On peut superposer sur une Google Map, on peut superposer sur des formats de carton.
OpenStreetMap.
Ah ouais,
il y a plein de choses. Quoi.
Okay. Wow.
Et est-ce qu'il récupère l'information de location pour les adresses ? En fait, il peut récupérer la...
Oui.
Mais il a sa propre structure de stockage des adresses ou il utilise celle de location ?
Non, c'est une structure un peu bâtarde. Ils vont peut-être la changer pour la 7. Ah. C'est un point. Comment ils appellent ça ? Geometry Collection, je crois.
Ouais.
C'est juste.
Latitude longitude.
Voilà, latitude longitude. Des duos latitude longitude à chaque point.
C'est ça l'avantage
d'être
plus précis que la. Et c'est-à-dire, si on fait rentrer des utilisateurs des adresses avec location, on pourrait le réutiliser avec OpenLayer. Et nous retrouver les points à partir de là.
Ah ouais, puisqu'il est géocode.
J'ai jamais couplé les deux, parce qu'avec OpenLayers, il y a déjà un module où on rentre l'adresse et il convertit automatiquement l'adresse en
géocode.
Et on peut afficher quand même l'adresse en tant que telle, quoi.
Bien sûr.
Ouais,
bien sûr.
Tu sais par quel service ça passe, la localisation de l'adresse ?
Ils ont utilisé l'API de Google Maps pour faire le truc.
Oui, c'est plus fin que Google Maps.
Ah oui, tu peux faire le journal.
Ouais, le journal. Plus la main. Exactement. L'avantage.
Un des avantages.
Tu peux dire, par exemple, tu peux mettre des points plus ou moins grosse taille suivant la population des villes. Il faut avoir une carte du monde avec Tokyo, gros par rouge. Et pareil, tu faire des choses qui sont pas faisables sur une.
Waouh, dynamiquement, putain, c'est bien.
Mais t'as pas besoin de Google Maps
Non, pas du tout.
Non,
pas du tout. À la base, en fait, OpenLayer, c'est la librairie JavaScript. Et le module Drupal OpenLayer intègre la librairie JavaScript. Et c'est une librairie qui sert à afficher des cartes de n'importe quel provider jouable, comme Google, Bing, ou d'autres providers open source. des fonds de carte autour, donc pas forcément tous les tracés des rues, mais ça peut juste les frontières, les principales villes, les subdivisions, les régions, etc. Et d'interagir avec ces cartes pour afficher ou pas tel type de données, et afficher des frontières, ou pas uniquement des points, mais il faut aussi afficher des zones géographiques. Pas forcément des points à latitude, longitude, ça peut aussi être des zones géographiques, ou des traits, ou des frontières, ou des limites.
Et quand tu utilises ce truc-là, tu as une sélection de fournisseurs de maps et tu choisis
la... Oui, voilà. Activer, tu peux avoir plusieurs visualisations. On va faire un tour sur le site de Development Seed, sur la web, ils mettent à chaque fois en avant les implémentations qu'ils ont faites avec Paladin. Development Seed, la société qui édite Paladin.
Je crois que c'est que des cartes
qui contribuent à OpenLayer. Ils ont à chaque fois, régulièrement, ils mettent des blog posts dans lesquels ils ont mis en œuvre justement OpenLayer dans un contexte d'un site particulier pour de l'information.
Development, ils ont beaucoup contribué au module, ils ont fait des alphas.
J'ai entendu parler d'un autre module, c'est la Géo en fait, je sais pas s'il y a rien. Apparemment, qui était.
Oui, qui était présenté à Paris au Repacom l'année dernière. Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis que quelqu'un l'a utilisé.
Je suis allé sur la page, ils disent que c'est plus. Justement, qu'ils peuvent aller à une granularité où ils peuvent stocker des polygones, mais qui sont perdus, où il n'y a pas d'adresse en fait.
Oui, je crois que Géo, il sert juste pour le stockage de la position géographique, et qu'il est. De manière justement plus précise, et qu'il va chercher à stocker ça dans une base. Une base de données géographique,
ouais, en
Postgres, GIS, MySQL, GIS, je crois, ça s'appelle. Des bases de données spécialisées dans le stockage d'informations géographiques. Ce n'est pas juste des champs relationnels, mais vraiment spécialisés là-dedans. Et c'est, mais normalement, c'est interfaçable avec OpenLayer. C'est Géo pour stocker la localisation et OpenLayer pour afficher ça
comme on le veut.
Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que disait le monsieur Urbain au niveau de la taille des pastilles. Ça m'intéresse. Ça. On pourrait imaginer une carte où, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont commenté un truc ou qui ont publié des nœuds qui habitent à Paris, où la pastille soit grosse à tous les trucs et tout ça, et ça le fait automatiquement.
Oui, oui, et c'est plutôt facile à faire.
Ah ouais,
ouais, ouais, ouais.
Okay.
En fait, c'est comme c'est Views qui tire le contenu,
ouais.
Il faut grouper les points que tu vas afficher. Par un critère. Il y a des grouping fields.
Donc
la prochaine session de sera sur OpenAir, si tu vas la présenter.
Voilà. T'as gagné.
C'est intéressant. OpenAir, c'est un module très intéressant.
Et c'est loin.
C'est hors de la vie.
Ça demande du temps à apprendre ce module ou à comprendre.
Non, le seul truc qu'il faut qu'il y ait un truc du détail en particulier, c'est que tu as deux vues, deux displays de la même vue pour pouvoir afficher ta carte.
Ouais.
Après, une fois que ça c'est compris, parce que c'est un peu tordu comme biais, comme façon de procéder, mais une fois que ça c'est assimilé, c'est plutôt facile. C'est des vues, c'est vraiment des
vues. Pour mettre la carte et ce qui va dessus, c'est pas les marqueurs et les cartes, c'est.
Ouais. Il n'y a pas besoin du tout de savoir développer pour utiliser OpenAir à la base. C'est vraiment vu.
Un journaliste peut utiliser la carte et en fait, pour la mettre sur son site.
Si c'est serveur de vue. Enfin, pour produire la carte, pour produire la carte, il voilà, faut savoir servir de vue.
Pas mal de sujets ce soir. J'aimerais bien qu'on aborde un sujet chaud, un peu chaud. En ce moment, le remaniement du gouvernement Drupal. Non, le Drupal Camp. On va faire en France.
Allez, je lance. Grosso modo, on a tous fait le constat qu'il y a pas mal d'évolutions en ce moment sur Drupal au niveau européen, on va dire. Il y a pas mal de camps qui se montent en Italie, en Espagne. Et il y a pas mal de petits événements. Et la question, c'est pourquoi pas en France ? Donc à partir de ce constat, on s'est dit, allons-y, lançons
le mouvement
pour faire quelque chose. Il y en a déjà eu. Il y en a eu à Paris, il y en a eu à Lyon. Donc l'idée, c'est de tourner. Mais là, on a les Nantais qui sont à fond pour organiser quelque chose justement du côté de Nantes. Il y a un site qui a été monté qui s'appelle drupalcamp.fr sur lequel on essaye de centraliser l'information liée à l'événement. On est dans la phase où on essaye de trouver le lieu. Donc justement, là, il y a les Nantais qui ont fait un drink pour parler justement dans leur coin de qu'est-ce qui est possible de faire du côté de Nantes. J'ai pas encore discuté avec eux sur
Et ce qui en est ressorti, apparemment, il y a des choses positives. Il y a des lieux qui sont susceptibles de nous accueillir.
C'est quoi un camp?
Un camp, c'est...
Ah, pardon, oui.
Parce qu'il y a des meet-up, des Drupal camp, des Drupal camp, des
Drupal beer. Sur une ou à deux journées, peut-être même trois.
Généralement,
c'est... On est fou. En fait, non, ça devient Drupal camp. Sur deux jours, et il y a des sessions. Il y a deux choix. Soit le matin, les sessions sont votées. Et on assiste aux sessions dans la journée. Soit les sessions sont préétablies, c'est des intervenants qui vont préparer des choses, vous arrivez, vous assistez aux présentations.
Ouais, le principe, c'est le barcamp. Tu as déjà peut-être participé à d'autres barcamps, c'est un peu à l'arrache. Tu arrives, tu as un tableau blanc avec des salles et des créneaux horaires. Chacun inscrit ce qu'il aimerait voir que quelqu'un présente ou ce qu'il est capable de présenter.
Et tu te répartes dans les salles après et tu discutes.
Voilà, exactement. Là, on a soumis au vote justement quelle était l'approche la plus intéressante. Les gens ont dit. On aimerait bien qu'il y ait des sessions libres, mais qu'il y ait quand même des choses un peu préparées. Du coup, ce sera un format un peu hybride.
Très bien.
Donc là, en ce moment, on est en train de chercher la salle. Il y a des chances que ça se passe à Nantes. Après, on va chercher la date. Il y a des chances que ce soit aux alentours de janvier 2011. Ça va être la date qui sera à peu près mieux. Et après, ben, on fera les appels à session pour ceux qui sont motivés pour présenter des choses. Et après, on essaiera aussi de faire en sorte qu'il y ait des gentils sponsors. Pour essayer de payer des billets de train, ce genre de choses, parce que bon, ça coûte un peu de se déplacer jusqu'à là. Et vous êtes donc invité à vous rendre sur drupalcamp.fr si vous avez envie de donner un coup de main pour que cette belle aventure se réalise. Jusqu'au gros dé, quand même.
À part cet événement-là, il y a d'autres événements sur Paris.
On bah, rencontre continue tous les mois à voir les rencontres.
On a deux événements, on a tous les clubs, il y a le club qui a lieu en première quinzaine et le drink. Il y aura lieu fin de mois sur la belle date. À peu près. On essaie de faire tourner les joueurs. On était parti sur un cycle de tous les mardis. En fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont un impératif le mardi qui ne peuvent pas venir. Donc on fait tourner les dates. Mais c'est toujours ça. La première quinzaine, c'est le meet-up. La deuxième quinzaine, c'est le mardi.
Et tout est annoncé sur le groupe, je pense.
Et ça fait longtemps que c'est tout.
Ça va être le sixième meet-up qu'on fait. Et on a bien dû faire le 6-7 drink aussi.
Au début, on faisait que des drinks.
Tu suis un en fait. Oui, mais par contre, je suis toujours sur drupal.org.
Sur le groupe, groups.drupal.org, je pense que c'est là qu'on annonce les choses. Il y a sur drupal.fr, c'est annoncé aussi. Après, si tu suis des gens sur Twitter, en général, on relaye l'information et ça se répand.
Et les drinks sont sur Facebook.
Et si vous allez sur Lyon, on essaie d'organiser donc, des drinks pour l'instant. Et puis on va s'orienter un peu vers des meet-up aussi, majoritairement. Donc s'il y en a qui passent vers Lyon, bah, pensez à regarder sur drupal.org ou le groupe. S'il ne se passe pas quelque chose.
Aussi votre propre site.
Et puis il y a drupallyon.gardens.com pour l'instant. On va peut-être mettre un donné. Donc normalement, si vous allez à Lyon, bah, pensez à jeter un coup d'œil.
C'est la communauté.
Vous ayez même quelqu'un pour aller voir en fait. Parce que là, on a pas mal rassemblé de monde récemment. On était aux journées du logiciel libre. On a pu faire une conférence. On avait un stand. Donc on sent qu'il y a bien intérêt aussi sur les régions. Donc, à Nantes aussi, ça bouge.
Ils sont à fond.
Et puis, Drupal Camp, ça va leur amener du monde aussi, notamment sur la région.
C'est le but, hein, pas tout ça, ça parle.
La conférence générale, c'est une centaine de personnes.
On tape sur une centaine de personnes. Alors, c'est plus facile d'avoir 100 personnes quand on est à Paris. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là. Je pense à Nantes, c'est entre 50 et 100 personnes. Ça dépendra aussi des salles. Là, il faudra réserver, même si ce n'est pas forcément un événement qui sera payant. Le but, c'est quand même que ce soit gratuit ou que ce soit 2 ou 3 euros. Enfin, vraiment, que ce soit symbolique. Si c'est un an, il y a des chances qu'il y ait un petit peu moins de monde.
Ça dépend s'ils arrivent à trouver des speakers. Ça, c'est une autre question, c'est de savoir si ces Drupal Camp doivent être uniquement en français. Ou ça peut être bien aussi d'avoir des cœurs étrangers qui vont eux s'exprimer en anglais.
Il a été décidé, entre guillemets, qu'il y aurait des sessions francophones et anglophones pour pas frustrer tous les publics. Donc après, s'il n'y a pas de speaker qui sera anglophone, bah, ça serait que du français.
Ça peut présenter tout le monde. Le meilleur en Italie, ils ont eu ça. Ils nous ont appelé une communauté française à venir chez eux. On a traduit leurs posts de blog pour faire un peu de pub. Ils avaient quelques sessions en anglais et beaucoup de sessions en italien. Pas sûr pour nous déplacer pour 3-4 sessions, ça ne vaut peut-être pas le coup, mais on a aussi des anglophones en France qui travaillent.
C'est vrai.
Je remonte juste sur un point, la réservation, ou plus généralement l'inscription, vous avez été quelques-uns à vous inscrire ce soir. Pensez juste vraiment à vous inscrire soit dans le commentaire sur drupal.fr.org, soit sur le groupe. Ça nous permet de savoir combien on attend de personnes et de gérer pour les sociétés combien de boissons elles doivent prévoir, combien de sièges elles peuvent prévoir pour pas que vous soyez beaucoup. C'est juste sympa pour nous, organisateurs, de savoir combien on va.
Alors attends, moi, la fois précédente, et cette fois-ci, j'ai essayé 3 fois de m'inscrire en étant connecté sur le groupe.
Oui, ça déconne.
Et à chaque fois, il me balance le filtre spam.
Non, il faut un compte aussi. Alors
ouais, Doodle, c'est bien ça. Bonne idée, Doodle.
Parce que sinon, ça va devenir un gérable. Même s'il y a déjà le groupe, ça ne pas se faire mal. Si on se parle dans tous les sens, ça va être compliqué. Au pire, même juste un commentaire. Si tu veux pas dire je m'inscris, tu dis je serai là.
Je serai là, I will be there.
Non.
Je veux juste faire un petit coup de pub avant l'accent. Non intéressé, juste, j'ai entendu qu'il y avait plein de gens qui étaient plus ou moins débutants. Drupal Facile, c'est un nouveau site qui doit avoir un mois, où il y a des tutos en français. En un mois, il y a déjà plus de 3 heures de tutos, et c'est génial.
Et c'est Drupal, ça.
Vidéo, des tutos vidéo Drupal. Alors au début, il était limité, j'imagine, par YouTube, donc ça fait moins de 10 minutes. Là, récemment, ça fait plus de 15 minutes. C'est hyper précis, hyper efficace. C'est, j'ai pas de part dans la boîte, c'est juste que j'ai découvert ça et ça m'a changé la vie. Drupal Facile. Et en plus, il est sur Lyon, c'est pour ça que ça m'a commencé.
Uniquement Drupal 7.
Alors, ouais, tout est sur Drupal 7. Il a fait le tuto sur Drush, il est sur Drupal 6 parce qu'il n'a pas réussi à faire avec Drupal
7. Sinon, moi,
c'est vraiment vachement chouette.
J'ai 2 annonces. Pour le vendredi, non, le jeudi 9 et 10, il y aura une formation Varnish à Paris. Les gens sont intéressés. Donc, j'ai des choses pour la performance. Et en début d'année, il devrait y avoir une formation sur Egir, qui est donc ce système d'opération.
Quand tu dis une formation, tu veux dire ouverte, gratuite, en journée, en soirée, sur 3 jours.
Alors, la formation Varnish, c'est une formation qui est donnée par la société qui maintient Varnish et qui est payante. Sur Egir, il y aura très certainement un événement le soir. Et une formation payante qui sera faite par des Canadiens, donc en français. Alors que Varnish n'est pas en anglais.
Drupal Facile, c'est gratuit.
Ouais.
Mais il faut pas y dire.
Alors, c'est vraiment trop bien.
Merci, Léa.
Merci, Léa.